de Cléopâtre à Hypatie, représentation de la femme dans le péplum hollywoodien, avec Adeline Grand-Clément et Sandra Pérez-Nogues.
Donc nous avons, à partir d'un premier dossier, Rome, pour le résumer le plus simplement possible, tenté de mesurer la manière dont l'histoire et ce qu'elle peut avoir de plus réaliste peut être intégrée ou non dans le péplum. Nous allons procéder avec le même esprit pour un second dossier, où nous changeons complètement de domaine historique, c'est le dossier de la présence des femmes et du traitement des femmes dans le péplum. Évidemment, cette approche se nourrit de tous les progrès accomplis depuis 30 ou 40 ans par ce qu'on appelle les études de genre, les gender studies, c'est-à-dire les études consacrées par les historiens et les historiennes, bien entendu, hein, il ne faut pas oublier de le mentionner, aux femmes. Ce dossier a été pris en charge pour notre colloque par Adeline Grand-Clément et Sandra Pérez-Nogues, qui sont toutes les deux maîtres de conférences en histoire grecque à l'Université de Toulouse 2, qui s'intéressent à l'histoire culturelle et politique de la Grèce et des régions touchées par l'influence grecque, mais qui s'intéressent aussi, et c'est à ce titre-là qu'elles ont accepté de parler aujourd'hui, qui s'intéressent aussi beaucoup aux gender studies, c'est-à-dire à la manière dont dont l'historien peut dire quelque chose de la vie, de la pensée des femmes à une période de l'histoire, ici l'Antiquité. Et elles le feront à partir du récent film Agora et de son personnage principal Hypatie.
Et de Cléopâtre.
Oui. Cléopâtre, elle est omniprésente dans nos débats, on ne la présente plus.
Merci beaucoup Pascal. Donc un exposé effectivement à deux voix, on va alternativement prendre la parole Sandra Pérez-Nogues et moi, et donc il me revient de commencer. Pascal l'a rappelé, notre intervention répond en fait à une commande, puisque les organisateurs ont estimé que une analyse par le biais du genre trouvait tout à fait sa place dans ce colloque consacré aux représentations de l'Antiquité dans la production cinématographique, et donc nous les remercions de leur invitation. Pascal l'a rappelé également, les gender studies sont nées en fait, on va dire, dans les années 70 aux États-Unis. Donc elles concernent les disciplines historiques, mais plus largement le champ des sciences sociales. Et elles ont pour objet, ces gender studies, d'étudier la façon dont chaque société construit les rapports de sexe, donc les rapports entre féminin et masculin. En prenant acte du fait qu'il ne s'agit pas ici de biologie, mais bien de processus de construction culturelle qui sont en jeu. Les historiens de l'Antiquité en France se sont beaucoup saisis de cet outil d'analyse, et donc on a un certain nombre d'études qui permettent de faire émerger de nouveaux questionnements et de repenser la place des femmes dans les sociétés antiques, ces sociétés où l'exercice du pouvoir direct reste exclusivement réservé aux hommes. Il en va différemment apparemment des études sur le cinéma en France, puisque les recherches sur le genre, donc qui s'efforcent de replacer les films dans leur contexte culturel, leur horizon de réception et montrer comment ils participent à la construction de normes sexuées, eh bien ces recherches sur le genre dans le domaine de l'analyse des films sont plutôt restées anglo-saxonnes jusqu'à présent. Alors certes, on pensera peut-être, et à juste titre, que le péplum n'est pas le genre qui se prête le plus à une étude sur le genre, ou en tout cas sur la femme. Effectivement, on l'a déjà dit hier, le monde qu'il invente et donne à voir est un monde de la masculinité, un monde d'une virilité exacerbée, à la fois physique et morale. C'est un univers de biceps, si je reprends la formule qui a été citée à De Fellag hier, où en témoignent aussi les affiches exposées dans la cour de la Cinémathèque, que vous pouvez regarder. Le titre du cartel qui présente cette exposition d'affiches, c'est « Muscles et cuirasses » au pluriel. Donc les femmes, on le voit bien sur ces affiches, sont là pour ajouter un zeste d'érotisme et servir de faire valoir aux héros la plupart du temps. Effectivement, dans la liste des nombreux péplums, peu de femmes jouent le rôle de personnage principal. Ou alors, quand il s'agit d'une femme comme personnage principal, il s'agit d'une reine vénéneuse ou une amazone. On a cette catégorie-là qui est très présente. On trouve plutôt, sinon, des héros qui s'illustrent à la guerre par leur courage, l'Andrea des Grecs, la Virtus des Romains, et qui conquièrent par là même gloire et honneur. Cette relative discrétion, marginalisation, on pourrait dire, des femmes dans le péplum tient peut-être en partie à une réalité historique. Le filtre déformant de nos sources sur l'histoire de l'Antiquité, qui nous livre un regard éminemment masculin sur ces sociétés grecques et romaines. Mais évidemment, ce n'est pas la seule cause. Et il nous semble que c'est davantage lié aux impératifs du genre, et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, il existe quelques films, bien sûr, où les rôles principaux sont féminins. Dans ce cas, l'intérêt pour nous est double, puisque se pose la question de la façon dont l'héroïne, mais aussi l'actrice qui l'incarne, s'impose dans un milieu masculin. Donc il y a un jeu de miroir qui est à l'œuvre. Cléopâtre est à n'en pas douter celle qui a donné lieu à la production cinématographique la plus abondante, on en a parlé déjà hier, et ce depuis les débuts du péplum, depuis Méliès en 1899. Le film de 1963 de Mankiewicz a marqué un jalon important. Et pour beaucoup encore, la souveraine d'Égypte garde les traits d'Elizabeth Taylor, qui a été choisie pour incarner ce rôle. Hypatie, au contraire, fait sa première apparition à l'écran grâce à Amenabar, sous les traits de Rachel Weisz. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Weisz. Bon. En 2009. En choisissant de confronter ces deux films, et donc on s'est finalement limité à ces deux films, pour des questions de temps notamment, on tentera de suggérer quelques pistes destinées à dépasser l'image un peu réductrice et simplificatrice d'un genre misogyne. On se demandera comment sont mis en scène les rapports de sexe dans ces deux films. Et plus généralement, pour devenir une héroïne de péplum, la femme doit-elle forcément adopter des comportements et des valeurs reconnues comme masculines et transgresser par là même les normes sexuées qui régissent la société? Dans quelle mesure aussi ces frontières entre les genres, entre le féminin et le masculin, sont-elles seules ce que les modernes projettent sur l'Antiquité à partir de leur propre représentation sociale? Nous avons choisi d'analyser ici deux exemples de production à diffusion large, à diffusion grand public, et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'adjectif hollywoodien dans le titre. Certes, le film d'Amenabar, on l'a vu hier, est plutôt à classer du la catégorie européenne, en fait internationale. Il s'agit maintenant de ces types de grandes productions dont les capitaux sont internationalisés et dont les lieux de tournage sont eux-mêmes internationalisés. Les tournages d'Agora ont lieu à Malte. Ces deux productions grand public présentent à la fois des points communs et des différences et permettent justement d'envisager notre question dans la diachronie. En effet, l'écart chronologique est grand. Entre 1963 et 2009, le genre du péplum, en particulier hollywoodien, s'est renouvelé depuis Gladiator, s'est internationalisé. Le milieu cinématographique dans son ensemble s'est davantage féminisé et l'image de la femme a évolué dans la production cinématographique. Des points communs entre ces deux films, deux femmes d'exception, qu'on pourrait appeler femmes de caractère, femmes fortes, dans une même cité, Alexandrie, à environ 4 siècles de distance, et à chaque fois à des moments charnières, ou présentées comme telles en tout cas par les réalisateurs, du côté de Cléopâtre, moment de l'extinction de la dynastie Lagide, et moment où le dernier grand royaume hellénistique, celui d'Égypte, tombe sous l'escarcelle de Rome, sous la domination de Rome. De l'autre côté, pour Agora, moment où le christianisme devient religion d'État, religion impériale, et majoritaire à la fois au sein de la population et dans les milieux dirigeants. Donc, dans les deux cas, les réalisateurs ont le souci de présenter un peu la fin d'un monde, et Amenabar dit lui-même avoir été fortement influencé par la chute de l'Empire romain. Nous allons essayer de vous présenter ces deux films. Et on va commencer par se demander si on peut considérer Cléopâtre et Hypatie, à la fois les personnages historiques et puis les actrices qui les incarnent, comme des icônes du féminisme. C'est évidemment bien plus compliqué que cela et je laisse la parole maintenant à Sandra qui va vous en dire un petit peu plus sur ce point.
Alors, je vais tenter de les présenter l'une et l'autre, sachant que la plus connue, Cléopâtre, nécessitera un peu moins de présentation. Alors, Cléopâtre, vous le savez tous, c'est la dernière de cette fameuse lignée des Ptolémées qui s'est établie en Égypte après la mort d'Alexandre. C'est donc un royaume riche, multiséculaire, puissant en Orient. Le pays est lui-même une région clé pour l'Orient. À l'époque de Cléopâtre, le pouvoir est disputé par ses frères et par elle-même. Et pour les Romains, Le problème que pose l'Égypte, c'est que c'est le grenier à blé hein, de Rome, d'où le soin qu'ils vont mettre hein, dans leur relation avec les autorités régnantes, notamment avec sa représentante Cléopâtre. Alors, dans les sources, elle est décrite comme belle, jeune, sensuelle. Hein. Elle a une trentaine d'années lorsqu'elle rencontre César, qui vient pour la première fois en Égypte et qui arrive là pour, à la poursuite hein, de Pompée pour faire le lien avec Rome tout à l'heure. Elle aurait eu un fils avec César, le petit Césarion, né vers 47. Et après la mort de César, elle va se rapprocher de Marc-Antoine, dont elle aura des jumeaux, une fille et un garçon, selon la tradition. Elle se suicide pour échapper au triomphe d'Octave en 30 avant Jésus-Christ. Alors, dès l'Antiquité, naît autour de son personnage une foule de légendes. La souveraine Lagide hein, étant accusée de Regina Meretrix par certains auteurs latins. Avec Hypatie, on a une figure assez différente. Elle est fille d'un mathématicien réputé, Théon. Elle est d'Alexandrie, hein, elle est alexandrine d'origine. Elle devient elle-même une excellente mathématicienne et astronome, ainsi qu'une philosophe reconnue. Grâce à la correspondance qu'entretint avec elle l'un de ses disciples, Synésios de Cyrène, on sait qu'elle fut un professeur d'excellence, qu'elle s'était entourée d'un cercle de jeunes aristocrates venant d'Égypte, mais aussi d'autres pays, voisins, Cyrène en l'occurrence, hein, avec Synésios, tous ces jeunes gens ayant pour la plupart fini hein, par leur carrière en occupant de hauts postes dans l'administration impériale ou ecclésiastique. D'après les travaux qu'on a pu consulter, en particulier une très bonne biographie d'un professeur d'histoire romaine à l'université de Cracovie, Marie Dzielska, j'avais l'ouvrage dans mon cartable. C'est un livre qui est paru en 1995 en anglais et qui a été traduit en français seulement l'an dernier, enfin qui a été publié en français seulement l'an dernier, sans doute aussi à l'occasion hein, de la sortie d'Agora. Donc d'après cette spécialiste, Marie Dzielska, il semble bien que la communauté qui s'est formée autour d'Hypatie corresponde effectivement à ce qu'on connaît hein, de ces communautés platoniciennes, voire pythagoriciennes, hein, puisque là il y a une filiation qu'on connaît très bien pour l'Antiquité, c'est-à-dire un maître entouré d'élèves, de disciples, le maître jouant le rôle de guide spirituel, donc une communauté qui fait circuler dans son sein hein, des savoirs secrets et exclusivement réservés hein, à ses membres, si bien que ce sont quand même des communautés très fermées hein, par rapport au reste de la société. C'est vraiment très réservé aussi à l'élite sociale. Alors, elle était aussi Hypatie respectée pour son savoir, pour ses vertus, et c'est aussi une autorité morale à Alexandrie, avec laquelle hein, devait compter les pouvoirs politiques et religieux de la cité, et on le sait par les sources. Alors c'est cette situation intenable hein, pour une femme qui ne s'était pas convertie au christianisme, qui explique sans doute le meurtre politique dont elle fut victime. Dernier point, contrairement à l'image que donne le film Agora, il semblerait, et là je vais en décevoir plus d'un, qu'elle fut plus âgée, puisque certains historiens estiment que lors de son assassinat en 415, elle avait 60 ans. Et beaucoup hein, d'historiens rejoignent cette hypothèse, donc on est assez loin de l'image, de la belle image hein, de Rachel Weiss. Alors, autre point à signaler aussi, hein, on le voit chez Voltaire par exemple, hein, elle a été Hypatie longtemps le symbole de la lutte contre l'obscurantisme et le fanatisme religieux. Mais attention là aussi, c'est une lecture hein, de son histoire, une lecture très particulière des textes. Alors, est-ce qu'on peut en faire une figure du féminisme comme certains l'ont fait aujourd'hui? Là aussi, je leur laisse la responsabilité. Alors maintenant, présentons les deux films. Le film Cléopâtre, bon, très connu puisque vous en avez parlé, donc de Joseph Mankiewicz, a été l'un des plus gros budgets de son temps, à tel point d'ailleurs que la maison de production a fait faillite. Le film a joué aussi beaucoup de malchance, puisque durant les 2 années de sa réalisation, il a dû faire face à beaucoup d'obstacles. Alors, ce qui nous intéresse directement, c'est par exemple dans le choix des acteurs. Il faut savoir que c'est pas Elizabeth Taylor qui était prévue au départ, c'était Joan Collins. Ça aurait changé quand même la face du monde, pour le coup. Richard Burton aussi n'était pas désiré par le studio au départ. Ensuite, la première année, ils ont la très bonne idée d'aller tourner, non pas à Rome, mais à l'époque, il y a les Jeux Olympiques, donc ils vont tourner en Angleterre. Inutile de vous dire que ça a été très compliqué le tournage, puisque apparemment il a plu sans discontinuer. Point faible, la santé d'Elizabeth Taylor. Elle a contracté une méningite. Enfin, vous voyez que vraiment, une avalanche de difficultés. Et puis surtout, et c'est ça qui a marqué le film, c'est le scandale que va provoquer la liaison, vite connue d'ailleurs, entre Richard Burton et Elizabeth Taylor. L'un et l'autre étant adultères, puisque l'un et l'autre étaient mariés. Alors, ce qui est intéressant par rapport au film, c'est que quand on regarde le générique, on a des références qui sont directement citées dans l'élaboration du scénario. Alors, il y a Plutarque, il y a Suétone, il y a Appien, et il y a un livre de Carlo Mario Franzero, The Life and Times of Cleopatra. Alors, ça semble-t-il, ça pose un problème parce que il aurait largement contribué, beaucoup plus que ce qu'on a pu en dire, au scénario du film. Bon, ceci dit, je ne rentre pas là dans le détail. Alors, quand il est à sa sortie en 1963, il va être très critiqué, en particulier Elizabeth Taylor, pour le scandale de sa relation avec Richard Burton. Et puis, les entrées aussi ne seront pas au rendez-vous. Il aura seulement 4 Oscars à Hollywood. C'est quand même... c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte quand même à quel point il a été assez mal reçu à l'époque. 4 Oscars dans des catégories techniques. Donc, en même temps, on leur a... C'est des formes de récompenses qui sont quand même à demi des récompenses. Donc un film démesuré, peut-être trop, et peut-être tellement ambitieux qu'il a au fond perdu en cours de route la véritable vocation qu'il avait. Et pourtant, c'est l'un des plus grands réalisateurs de son temps, qui est aux commandes, Mankiewicz. C'est aussi le révélateur de très très grands talents, Elizabeth Taylor également, qui est déjà en pleine ascension dans sa carrière. Elle a 31 ans quand elle commence à la sortie du film précisément. Donc on est vraiment dans les âges équivalents de Cléopâtre. Et du reste, elle va demander... Le plus gros cachet qu'a demandé une actrice à l'époque, $1 million, ce que le studio acceptera sans rechigner. Alors, aujourd'hui, évidemment, les cinéphiles ont un regard très différent sur le film. C'est un très beau film pour beaucoup, pour moi-même d'ailleurs, pour l'avoir revu, j'ai beaucoup apprécié. Bon, peut-être aussi avec l'âge, il y a une maturité aussi qu'il faut avoir pour aborder certains films, les revoir en tout cas. C'est un film très intimiste, finalement. Et pour moi, ça fait partie quand même des chefs-d'œuvre de Mankiewicz, bon, même s'il y a d'autres films qu'il ne faudrait pas négliger. Alors, le film Hypatie, lui, bon, il est beaucoup plus récent, il est sorti en 2009. Il a eu plusieurs prix en Espagne, les Goya du cinéma. C'est aussi un gros budget, mais aujourd'hui, on est habitué quand même à ce que les films nécessitent des millions d'euros ou des millions de dollars. Mais en tout cas, c'est quand même un budget moindre par rapport au film d'Oliver Stone sur Alexandre. Le scénario, il est signé donc d'Alexandre Amenabar et de Matteo Gil. Le conseiller historique que j'avais repéré dans la fiche technique du film, c'est Justine Pollard, qui a travaillé sur une série télévisée consacrée aux Tudors et aussi à un documentaire sur l'Égypte pharaonique. Mais Adeline m'a donné cette précision aussi. Il y a une historienne, effectivement, qui figure aussi, mais noyée, et ça c'est assez curieux, c'est vraiment noyé hein, dans le générique. Une historienne des femmes et prof d'histoire romaine à Madrid, Elisa Maria, sans doute, Garrido González. Alors, à sa sortie, Agora... va là aussi avoir un accueil très mitigé auprès des professionnels. D'une part, enfin, j'ai relevé des choses qui revenaient très souvent. Hein, beaucoup ont noté le décalage et qui est certain entre l'interprétation de Rachel Weisz et celle des autres acteurs qui sont quand même somme toute plus pas les chevaux, hein, enfin plus moyen quand même hein, dans la performance. Bon, ça c'est une critique qu'on a dans Télérama, mais que j'ai retrouvée hein, dans d'autres journaux. L'autre critique aussi, c'est le fait que ce soit un film un peu pince-somme, avec tous les défauts du mélange hein, entre péplum, pince-somme philosophique, etc. Ça c'est notamment ce que disaient les Inrock à l'époque. Et puis, la dernière, hein, qui est assez sensible aussi et qu'on peut discuter, c'est la grosse ambiguïté sur le contexte de fanatisme et l'analogie que fait Amenabar entre hier et aujourd'hui. Hein, et là, ça pose évidemment un problème crucial hein, du film. Alors, le public a eu une critique meilleure. Lié très probablement hein, justement à cette analogie qui a été sans doute un peu mieux perçue par le grand public qu'elle ne l'a été par les critiques. Reste en tout cas hein, que le pilier du film, c'est cette actrice, Rachel Weisz. C'est une actrice anglaise de 29 ans. On a pu la voir justement avant son rôle dans Agora, dans le fameux film qui reprend un des bouquins les plus connus là, de John le Carré, The Constant Gardener. Elle jouait d'ailleurs très bien et elle jouait aux côtés de Ralph Fiennes, pour ceux qui suivent un peu sa carrière. C'est une actrice qui a été très tôt hein, formée à la comédie, au métier d'actrice. Elle arrive à résister d'ailleurs à l'impitoyable concurrence des studios américains, et Dieu sait que ça ne doit pas être facile. Et elle a aussi, semble-t-il, hein, l'image d'une féministe. Alors, est-ce que ça l'a guidée dans le choix de son rôle? Bon, ce serait là aussi une question à creuser. Alors, pour des questions justement de temps, nous nous limiterons ici à examiner quelques points concernant le rapport que ces deux personnages, Cléopâtre et Hypatie, entretiennent avec les hommes qui les entourent et la manière dont elles évoluent dans un monde éminemment masculin. On remarque en effet que dans les deux films, hein, il s'agit des seuls grands rôles féminins. Dans le cas d'Agora, il est frappant de voir d'ailleurs à quel point Hypatie est presque exclusivement mise en scène au milieu d'hommes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de dialogue pour les femmes, si ce n'est une vague réplique au théâtre d'une comédienne. Mais sinon, les femmes sont quasiment muettes. Hein, il n'y a qu'Hypatie qui parle dans ce film. Dans Cléopâtre, la seule femme qui est un petit rôle, c'est Octavie, la sœur d'Octave, et l'épouse de Marc-Antoine. Mais alors, un rôle sans grand relief. Alors ensuite, on peut effectivement aussi citer les deux fidèles servantes de la reine, mais là aussi, c'est vraiment hein, des rôles hein, très, très mineurs. Alors cela a été dit hier, il n'y a pas lieu de chercher dans les péplums une vérité historique, ni de traquer les éventuelles erreurs. C'est précisément l'écart qui existe hein, entre la tradition transmise par les sources antiques et les choix de l'instance de production qui intéresse l'historien. On y décèle tout un pan de l'imaginaire moderne sur la femme et les rapports de sexe. Alors, on va d'abord commencer par l'image et les usages justement du corps féminin. Sachant que dans le péplum, le corps marque la différence entre masculin et féminin. Mais ici, nos deux héroïnes en jouent de manière différente. Pour Cléopâtre, il est incontestable que c'est par le corps qu'elle affirme sa féminité. Elle est toujours parée de bijoux, de talons aiguilles, de bracelets serpentiformes, qui étaient d'ailleurs à la mode, de maquillage, mais son pouvoir de séduction passe par l'exhibition. Je vois pas très bien, mais justement, la scène est là. Les séances de massage ou de bain, où Elizabeth Taylor est nue, elle est dissimulée sous des tissus extrêmement légers. On peut aussi d'ailleurs remarquer dans le film des décolletés très plongeants qui mettent bien en valeur une superbe poitrine, des vêtements toujours près du corps. Donc une forme d'exhibition qui occupe une large partie d'ailleurs de la première partie du film et qui repose clairement sur le cliché de la femme orientale, fière de son corps, de ses charmes sensuels. Alors cliché, c'est là que c'est intéressant, qui fonctionne aussi bien dans le récit antique que dans la réalité des années 60. Car ces scènes ont fait scandale. Et cela ne surprend pas pour l'époque, le corps quand même est assez bien dénudé. Donc un corps qui est donné à voir comme le corps de la séduction, de l'amour, et là je pense que le réalisateur, le studio a été quand même très loin. Il faut savoir par exemple qu'ils n'ont pas hésité à multiplier le nombre de costumes rien que pour Cléopâtre, puisque se racontait qu'Elizabeth Taylor disposait de 65 robes. Effectivement, il n'y a pas une scène où elles apparaissent avec les mêmes vêtements ni les mêmes bijoux. Alors pour Hypatie, c'est très différent. Dans une première partie du film, elle est vêtue comme un philosophe, comme ses disciples. Elle a le simple vêtement blanc, le fameux tribone. Puis après l'expulsion des païens, elle a un vêtement normal à la romaine avec des couleurs, mais elle n'a ni bijoux ni maquillage. Alors, j'ajouterai ce qu'avait précisé la directrice des costumes, Gabrielle Pescucci, sur le film. Dans les tenues d'Hypatie, il y a évidemment des références gréco-romaines, mais aussi masculines. Sa toge est une toge d'homme. C'était une femme très courageuse qui essayait de vivre à la manière des hommes. C'est pour cela que dans le film, elle ne porte pas de voile. Alors, ce qui est intéressant, au-delà du vêtement aussi, c'est la scène de bain. Il y a une scène de bain dans Hypatie, mais à la différence de Cléopâtre, elle sort, nue, mais on n'a pas un cadre général. Mais ce qui est remarquable, en revanche, c'est qu'elle est séchée par un homme. Il n'y a pas de femme dans la scène, et cet homme, c'est son esclave, Davus. Là, on a vraiment deux contextes différents, Cléopâtre et ses multiples servantes, et puis Hypatie avec son esclave Davus. Autre aspect qui relève du féminin, c'est le rapport à la maternité. Cléopâtre devient mère dans le film. Et Cléopâtre revendique cette possibilité de la maternité. Il y a une scène d'amour avec César où elle décrit son corps, ses seins gorgés de vie, ses hanches larges qui sont faites pour l'enfantement. Dès le départ, donc, l'union, la sexualité est placée sous le signe de la procréation, plus que de la jouissance, et procréation qui donne du pouvoir à cette femme, à la femme en général, mais à cette femme en particulier. Puisque ça peut donner, ça peut ouvrir la voie vers Rome. Pour Hypatie, le rapport à la maternité est beaucoup plus complexe. Il y a une scène qui est très humiliante, pour Oreste, dans le film, c'est une scène où elle jette à la figure d'Oreste, qui est un de ses disciples, un foulard qui est souillé de son sang menstruel. Et elle lui jette à la figure. L'anecdote existait déjà dans l'Antiquité. Mais comment l'interpréter ? On sait que le sang menstruel, c'est un sang impur pour les anciens. Et c'est vraiment le sang impur par excellence, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque durant la période de menstruation, la femme se soumet d'elle-même à des interdits assez nombreux. Donc, il y a un vrai affront dans ce geste-là, mais c'est en même temps la réponse qu'Hypati donne au cadeau, un double holos, et à la déclaration d'amour public que lui a faite Oreste au théâtre quelques jours auparavant. Et elle justifie son geste dans le film en faisant valoir qu'elle est une femme et ne peut donc pas répondre à l'harmonie au sens philosophique et même pythagoricien du terme. Alors, on peut penser que la réponse est plus la réponse d'une philosophe qui a sciemment renoncé à toute vie de femme, plus donc qu'une réponse de femme qui cherche à y conduire son prétendant. Elle se met en réalité dans la même position que ses disciples, c'est-à-dire cette volonté de quête d'une vie qui dépasse ses aléas du quotidien, qui dépasse ses nécessités liées à la chair. Mais dans le même temps, ce qui est intéressant dans le film, c'est que sa réponse passe par ce témoignage de féminité, là pour le coup, sans discussion. Alors, il y a aussi beaucoup d'ambiguïté dans la séduction d'Hypati. Elle séduit par sa beauté fragile, simple, par sa culture, par la douceur qu'elle peut déployer. Et une très belle scène dans le film où elle vient soigner les plaies de son esclave Davus qui vient d'être fouetté par son père. Mais dans le même temps, elle marque une certaine froideur et cette revendication d'une abstinence sexuelle claire qui l'isole et qui la protège aussi des hommes. C'est le cas avec Oreste, notamment. Alors, avec Davus, les relations, elles ne peuvent pas aller bien loin, puisqu'il est esclave. Et quoi qu'elle soit philosophe, elle respecte les règles sociales. Chacun doit être à sa place. Et même si elle lui laisse la parole pour exposer des théories d'astronomie, elle le remet tout de suite dans la catégorie à laquelle il appartient, celle des esclaves, évidemment. Alors, autre situation qu'il est intéressant d'évoquer, ce sont les situations d'autorité, les situations de pouvoir. Dans les deux cas, ce sont des femmes de pouvoir. Plusieurs scènes le montrent. Dans le cas de Cléopâtre, ce sont les scènes de couronnement. La scène de couronnement où même César est contraint de s'agenouiller, alors bon, qu'il hésite un petit moment, et ce qui d'ailleurs va susciter l'indignation d'un de ses généraux. Antoine aura à faire le même geste lors d'une de ses premières audiences. Le meilleur du film reste, à mon sens aussi, l'intelligence politique dont elle fait preuve. Lorsqu'elle doit se rendre à Rome, rejoindre César, elle explique assez clairement à ses conseillers qu'il faut être un peu plus familière. Au fond, il faut leur en mettre plein la vue à ces Romains. Et c'est tel quel dans le film. Alors, c'est assez intéressant parce que là aussi, ça marche. Le cliché marche pour l'époque, parce que très probablement, les Égyptiens avaient vraiment envie de montrer leur richesse, mais en même temps, ils savaient que les Romains, ils attendaient ça, ils attendaient de voir l'Égypte dans toute sa magnificence. Mais dans le même temps, ça marche aussi pour nous, pour le spectateur, parce que ça va donner lieu à une scène, mais alors d'anthologie. La scène de l'arrivée de Cléopâtre à Rome, c'est vraiment unique. Donc, une puissance incontestable, et elle traite d'égal à égal jusqu'au bout avec les hommes. Elle a conscience aussi de l'influence politique qu'elle a sur les Romains, qui se réclament tous héritiers d'Alexandre. Et il y a les scènes au tombeau d'Alexandre, puisqu'il se trouve près de la cité. Alors, des hommes donc qui sont tellement imbus de leur pouvoir, convaincus de leur grande destinée, qu'elle sait qu'elle représente pour eux une continuité presque divine. Alors, par le relais d'Isis, etc. Bon, je passe assez vite sur ces questions-là. Alors, avec Hypati, on est dans un registre différent. Elle, c'est l'enseignement qui la place dans une position d'autorité. Les premières scènes du film, on la voit devant son auditoire. Hein. C'est d'ailleurs sa voix qu'on entend en premier. Ceci dit, les sources antiques s'accordent pour considérer qu'elle était aussi l'une des autorités politiques les plus écoutées dans la cité. Elle avait l'oreille du préfet Oreste, et on le voit très bien dans le film, elle avait aussi l'oreille d'autres magistrats, et c'est des choses qu'on retrouve chez beaucoup d'historiens, notamment Pierre Chuvin, dans la chronique des derniers païens. C'est donc bien ce pouvoir à égalité avec les hommes qui a causé d'ailleurs leur perte à l'une et l'autre. Contrairement à l'interprétation que fait Amédabar dans le film, le meurtre d'Hypatie, c'est un meurtre politique. Et de la même manière, Cléopâtre, quand Octave va déclarer la guerre, il va déclarer la guerre à Cléopâtre et à la seule Cléopâtre en 32.
Alors, je poursuis rapidement puisque le temps passe et que on voudrait vous montrer un petit bout de film. Donc, l'autorité que ces deux femmes détiennent sur les hommes découle aussi de leur savoir, de leur intelligence, souvent rusée, parfois teintée d'humour, et de leur clairvoyance. Toutes les deux, on le voit bien dans les films, sont attachées au savoir, qui est symbolisé notamment par la bibliothèque d'Alexandrie. Et dans les deux cas, dans les deux films, est mise en scène l'incendie, un des incendies qui a touché la bibliothèque, avec une réaction qui est identique des deux femmes. Dans les deux cas, elles s'effraient pour la destinée de ces rouleaux qui sont conservés dans la bibliothèque. Elles sont souvent face à des hommes qui ne comprennent pas. Dans le cas de Cléopâtre, c'est César qui ne voit pas l'intérêt et qui part ailleurs. Et dans le cas d'Hypatie, c'est Hypatie qui essaye de demander à son esclave Davus de l'aider à récupérer les rouleaux, et lui qui fait partie en fait des gens qui finalement saccagent ce lieu. Cette autorité s'exerce aussi principalement par la parole, il faut le souligner, à la différence de leurs alter-ego masculins qui, eux, tiennent le glaive, qui commandent les armées et sont dans l'action. Il y a un passage fameux dans le Cléopâtre de Mankiewicz où César dit à Cléopâtre qu'elle parle trop, je cite, il dit « tu parles trop ». Et juste après, il la réduit au silence par un baiser, et leur baiser d'ailleurs est interrompu par l'irruption de la garde, et César est appelé, il doit les combattre, il prend ses armes et il part. Donc César, lui, c'est un homme d'action. Hypatie, c'est, on l'a déjà dit, une grande philosophe platonicienne, néo-platonicienne, qui a un rôle de maître spirituel pour ses élèves. Ce qui est intéressant, c'est que le savoir qu'elle leur a dispensé va finalement se retourner contre elle à la fin du film. Puisque, à la fin du film, l'un de ses anciens disciples, Synésios de Cyrène, donc qui est évêque, va reprendre l'une des paroles qu'elle avait prononcées au début du film, dans une scène d'enseignement. Donc vous avez une image sur l'écran, au début du film, pour calmer une querelle entre Synésios et Oreste. Elle est à l'époque maître du jeu, et donc elle rappelle un principe de Clyde: si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les deux sont égales entre elles, et elle veut ainsi calmer la rivalité qui existe entre Synésios et Oreste. Synésios s'en resserre pour l'enjoindre à se convertir au christianisme, en lui disant: on est tous les deux, Oreste et moi, chrétiens, donc si deux... principe d'égalité, donc toi, si tu es égal à nous, tu dois aussi te convertir. Et là, elle va refuser, elle tient bon, elle refuse, et par son refus, elle sait qu'elle se condamne à mort. Et l'argument qu'elle donne dans le film, c'est dire que se convertir reviendra à renoncer à son esprit critique, à sa liberté de penser. Et c'est ça qui est mis en valeur dans le film. Alors justement, terminons par ces façons de mourir. Parlons peut-être de belle mort, en hommage à Nicole Loro, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes et l'imaginaire que les Grecs avaient construit autour de la figure féminine. Dans les deux cas, dans les deux films, les réalisateurs insistent sur le courage et la dignité des deux femmes mises à mort, qui meurent sans cri, sans agitation. La mort est prévue et acceptée. Et dans les deux cas, surtout, c'est une mort qui ne fait pas couler le sang de la femme. Et ça, on pourrait peut-être faire des analogies avec des choses qu'on connaît pour le monde grec dans l'Antiquité. Cette mort est esthétisée par les cinéastes. Et elle est à replacer dans un cadre plus large d'ailleurs, le cadre de cette réception de la mort de ces deux héroïnes depuis l'époque moderne. Vous avez sur l'écran un de ces nombreux tableaux qui évoquent la mort de Cléopâtre. Alors j'ai choisi celui-là parce que c'est un peintre de Saint-Gaudens, il a été élève de Jérôme, et ce tableau vous pouvez l'admirer au musée des Augustins de Toulouse. Donc vous ne le regarderez peut-être plus pareil quand vous irez le voir, où on voit très bien cette esthétisation de la mort, femme orientale, sur son lit, une sorte de volupté sensuelle, corps dénudé. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. celle d'Hypatie, elle est évoquée plus dans les textes, dans les poèmes, etc. Et on a vu que c'est souvent, sa mort est présentée comme le symbole d'une certaine fin de l'Antiquité, celle de la culture, celle de la liberté de penser, celle d'une tradition philosophique et du goût du beau. Et le fait que souvent dans ces textes-là, dans ces poèmes, je vous ai mis ici le texte d'un poème de Le Comte de Lisle, elle est présentée comme belle, le fait qu'elle soit jeune et jolie, ça rend sa mort encore plus atroce. On fait une vierge martyre. Hein, et ça explique que Amenabar peut-être garde cette idée d'une jeunesse, hein, parce que ça rendra la mort d'Hypatie plus terrible. Là, j'ai mis en gras un vers, le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite. On voit Le Comte de Lisle fait de cette figure-là une figure asexuée, en quelque sorte, un mélange de principes masculins et féminins. Donc je voudrais qu'on regarde rapidement ces deux séquences qui sont les deux fins de film et les deux morts d'héroïne. Donc on va commencer par le premier, l'extrait de Cléopâtre. Alors bon, je vais peut-être commencer le commentaire alors. Donc on va voir que Cléopâtre accepte sa mort, hein, elle la décide, elle va se suicider, donc elle la décide à partir du moment où elle sait à la fois Antoine et son fils mort. Là on voit qu'elle parle de son fils et le fait que c'est les deux hommes qui étaient importants pour elle meurent et qui pouvaient lui ouvrir la porte du pouvoir meurent, elle n'a plus... de raison de vivre. Et Mankiewicz suit vraiment la version de Plutarque à quelques différences près, mais globalement, il est assez fidèle au texte de Plutarque. Sauf que chez Plutarque, Cléopâtre essaye d'abord de se suicider avec une dague et échoue, alors que là, on va voir que c'est une mort qui est totalement sans goutte de sang, sans violence à accepter, qui contraste du coup beaucoup avec la mort d'Antoine qui, lui, se rate, essaye de se suicider avec son épée juste avant. Hein. Et le fait qu'il se rate permet aussi à Cléopâtre de récupérer son corps avant qu'il ne meure. Et il y a un dernier baiser, qui est le baiser de la mort, hein, où elle l'a entre ses bras, et donc il meurt de sa blessure, finalement. Et donc ensuite, elle se donne la mort en jouant sur le thème du voyage. L'idée, c'est aussi de triompher d'Octave, qui la veut vivante pour l'amener à Rome, et donc cette idée qu'elle va aller rejoindre Antoine, donc elle parle d'Antoine à la fin, hein, et on voit cette idée du triomphe de l'amour, finalement, au-delà de la mort.
Ai-je ta parole d'honneur que tu n'attendras pas ta personne par quelque moyen que
ça, c'est le méchant Octave.
Je te le jure.
Le blond.
Les gardes doivent-ils demeurer à l'intérieur? Car après tout, j'ai juré sur la vie de mon fils. À présent, je dois me préparer à m'en aller.
Que souhaites-tu?
Avant tout, je voudrais manger quelque chose. Un petit quelque chose qui m'aidera à franchir le chemin.
Un fruit, par exemple?
Apporte-moi. Charmian. Que feras-tu, Eros?
Pas un jour ne vécume sans toi. Tu ne peux nous abandonner ici.
Il est possible qu'il y en ait suffisamment pour nous. Apporte-moi une tablette afin que j'écrive. Je veux adresser une missive à Octave.
Les mots sont vains avec de tels hommes, Majesté.
J'ai adressé tant de missives à tant et tant d'hommes. Ce n'est qu'une de plus pour une toute dernière requête.
Y consentira-t-il, selon toi?
Je doute de le savoir jamais. Mais à sa place, j'y consentirai.
Je servirai Sa Majesté, comme toujours. C'est moi qui l'ai toujours servi.
Venez-la toutes les deux. Vous allez m'habiller pour mon voyage. Je porterai la robe dans laquelle Antoine m'a vue la première fois.
C'était la robe d'or?
Il faut qu'il sache tout de suite, même en me voyant de très loin, que c'est moi qui suis là. Ce sera la dernière chose que... Jette ceci à un des gardes dehors pour Octave. Mais attends avant. Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes.
On peut arrêter là. Donc le film est quasiment fini. En fait, juste après, Octave va apprendre la mort de Cléopâtre et il va arriver trop tard. Et il va voir le spectacle. Il y a toute une mise en scène qui reprend vraiment le texte de Plutarque où on voit Cléopâtre allongée sur le lit avec ses deux servantes dont l'une est en train de mourir. L'autre est déjà morte à ses pieds, donc il correspond un petit peu à ce tableau-là. Sauf qu'elle est effectivement parée de son vêtement d'or, celui qu'elle avait lors de son entrée triomphale à Rome. Donc là, il n'y a pas de nudité, mais au contraire, on est dans la parure davantage. Alors, on peut passer le deuxième extrait, donc là où on va voir la mort d'Hypatie, qui est là aussi une mort choisie, puisque donc je commente un petit peu le temps que l'extrait soit lancé. Elle a congédié les gardes juste avant. Et elle est allée dans la rue alors qu'elle savait que sa vie était menacée dans le film. On sait très peu de la mort d'Hypatie dans les textes, juste qu'elle a été mise en pièces, qu'on lui a jeté des tessons de poterie dans une église, un ancien temple transformé en église. C'est tout ce qu'on sait. Donc là, Aménabar va beaucoup construire autour de tout ça. Donc elle congédie la garde. Donc c'est une sorte de suicide déguisé. Enfin, en tout cas, elle choisit d'accepter la mort. Et on verra que sa robe rouge contraste vraiment avec le manteau noir des moines fanatiques qui l'emmènent pour la mettre à mort. Et la responsable des costumes a bien indiqué que le choix du rouge était volontaire et c'était pour montrer non pas la force guerrière, mais la force intellectuelle, hein, cette idée d'un rouge qui a du coup une signification nouvelle. Donc on peut montrer l'extrait. Vous allez voir en fait qu'ici, il y a un certain nombre d'insultes, hein, sorcières, putains, des choses qu'on retrouve traditionnellement. Alors la scène est beaucoup plus violente que l'autre, mais vous allez voir que Aménabar a ici rajouté, grâce à ce personnage d'Avus, qui est un esclave, donc il a totalement inventé, qui dans l'histoire est le seul personnage totalement inventé par rapport à ce que nous disent les sources anciennes. Et en fait, il va l'esclave, vous allez le voir, va étouffer Hypatie avant qu'elle ne soit lapidée, pour lui permettre d'éviter la douleur, la souffrance. Et donc là encore, le sang n'est pas versé, on ne voit rien. Ceci dit, contrairement à Cléopâtre, là, on va la voir dénudée. Et donc ce corps qui n'a jamais pu être montré, érotisé, etc., l'est dans la scène ultime finale. Donc il y a une forme d'érotisation de la mort, avec un côté très sensuel de cette scène, où c'est Davus qui l'étouffe. Et vous vous souvenez, son esclave Davus qui est amoureux d'elle. Et donc il y a un flashback où on voit toutes les scènes où il a ressenti beaucoup d'amour pour elle, où il a touché son pied, où il a sorti justement du bain, etc. Donc il y a un système de flashback, hein, une volonté d'érotiser très fortement la mort d'Hypatie, donc cette jeune, celle qui est présentée comme une jeune vierge chez les poètes modernes du 19e siècle en particulier. Donc vous voyez, il y a eu à un moment le plan sur l'ellipse qu'on revoit en fait à la fin du film et qui renvoie à ce savoir astronomique, mathématique d'Hypatie, et c'est ce qui va rester, c'est ce qui reste après. Autant pour Cléopâtre, on avait une voix off masculine qui disait que c'était la fin de la dernière dynastie Lagine, donc une voix masculine. Autant là, c'est un surtitrage, donc il n'y a pas de voix ni féminine ou masculine pour dire que bien l'œuvre d'Hypatie est perdue, mais par contre, sa renommée, hein, elle a gagné sa gloire en quelque sorte par son savoir. Donc une conclusion en 2 minutes, 1 minute 30 en moins. Donc la Cléopâtre de Mankiewicz et l'Hypatie d'Aménabar apparaissent comme des figures féminines complexes qui permettent à tout spectateur une grande liberté d'interprétation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on attend d'un péplum, qu'il réponde à des attentes très très différentes à un large public. En cela, les deux films s'inscrivent dans une histoire plus large, celle de la réception de ces deux personnages historiques, qui, parce qu'ils sont mal connus des sources anciennes, parce qu'on connaît assez peu de choses de leur vie ou surtout de leur mort dans le cas d'Hypatie, sont malléables et laissent une large part à l'imaginaire collectif et se prêtent à d'incessantes réinventions. On l'a vu, ces personnages conjuguent des éléments à la fois féminins et masculins. Elles incarnent certaines valeurs du héros, intransigeance, droiture, courage, et elles acquièrent une forme de gloire. Mais il leur manque la force physique, ce qui explique leur vulnérabilité. On s'aperçoit qu'en dernier ressort triomphe une autorité masculine incarnée par les Romains ou les chrétiens, dans un cas Octave, dans l'autre cas l'évêque Cyril. Elles sont finalement toutes les deux du côté des vaincus et vivent la fin d'un monde. C'est sur cet aspect que les réalisateurs mettent l'accent à la fin de leur film. Peut-être est-ce destiné à rassurer justement les amateurs de péplum. Claude Aziz a souligné la fonction psychanalytique du péplum. Ouf, la domination masculine a de beaux jours devant elle et le temps du matriarcat n'est plus, en quelque sorte. Ça explique sans doute que le péplum est un genre qui peine à substituer la glorification de la figure féminine à celle de la glorification de la figure masculine. La femme forte peine à s'imposer par rapport à des Hercules ou autres héros. Comme dans l'Antiquité, l'héroïne ne fait pas recette, et on connaît la légende noire qui s'est attachée à des femmes ayant exercé ou voulu exercer des formes de pouvoir habituellement dévolues aux femmes, Olympias, Théodora et d'autres. Avec Hypatie, Amenabar a inventé cependant un nouveau type de péplum, ce qu'il appelle le péplum philosophique ou le péplum intellectuel, et il nous reste à savoir si ce type de péplum a de beaux jours devant lui. Une dernière remarque qui n'a rien à donner, il n'a quand même pas choisi de donner à son film le nom d'Hypatie, il a choisi Agora, un titre à vocation plus universelle, qui met l'accent sur la question de la parole entre les peuples et surtout donc cette dimension universelle qui transcende les époques. On n'est pas sûr que sous le titre d'Hypatie, le film aurait été davantage commercialisable, en quelque sorte. Je vous remercie.